Le débat du jour, Jean-François Cadet.
L'agriculture biologique peut-elle nourrir la planète? Nous ouvrons le débat ce soir à la veille des Assises nationales de l'agriculture biologique. Elles vont se tenir demain au ministère français de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable. Et alors que l'idée d'une loi et d'un moratoire sur les OGM continue de faire son chemin, en 2006, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, estimait que l'agriculture biologique était pratiquée dans 120 pays sur un total de quelque 31 millions d'hectares pour un marché mondial de 40 milliards de dollars. Alors le bio, c'est vrai, est à la mode dans les pays du Nord, mais est-il adapté aux pays du Sud? Quels sont les avantages écologiques, économiques et sociaux du développement de l'agriculture biologique? Quelles en sont ses limites? Le développement de l'agriculture biologique est-il une solution potentielle à la sous-alimentation et aux famines? Quelles seraient les conséquences d'un passage progressif de l'agriculture conventionnelle au tout biologique? Pour en débattre avec nous, Bruno Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous d'Angers. Vous êtes économiste, directeur général de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Vous avez publié un livre intitulé « Nourrir l'humanité » aux éditions de La Découverte. Également en ligne avec nous de Bretagne, cette fois Henri Thépeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB. Et vous êtes de ceux qui expliquaient à qui veut l'entendre que oui, le bio peut nourrir le monde. Alors est-ce que c'est pas un peu de la méthode coup? Est-ce que c'est pas un peu optimiste de dire ça?
Effectivement, ça peut paraître optimiste dans la mesure où ici en France, on en est toujours à 2%. Mais ça n'empêche que il y a de plus en plus de signaux qui nous viennent de partout dans le monde et qui nous disent qu'effectivement, ce qu'on croit et ce qu'on pense depuis longtemps est effectivement réalisable. Je pense en particulier à un certain nombre d'études qui sont réalisées aujourd'hui aux États-Unis qui montrent que l'agriculture bio est tout à fait à même nourrir la planète si on en prend un jour les moyens.
Ça veut dire que le tout bio peut aujourd'hui permettre de nourrir l'ensemble des êtres humains?
Je crois que ça va même plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on a une agriculture qui n'arrive pas à nourrir la planète. Ceci en fait parce que les méthodes de culture qui sont adaptées ici en Europe et en Occident en général ne sont absolument pas du tout adaptées aux conditions pédoclimatiques des pays du Sud, et au contraire l'agriculture biologique peut tout à fait se caractériser par une augmentation des rendements dans ces pays-là.
Alors justement, la question des rendements, Bruno Parmentier, c'est un petit peu le reproche qu'on a coutume d'entendre hein, souvent à ceux qui croient effectivement, comme Henri Thépeau, à l'avenir de l'agriculture biologique. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient effectivement qu'on peut s'appuyer uniquement sur le bio pour nourrir la planète?
Alors les mots sont un peu piégés, à mon humble avis. C'est-à-dire que actuellement, quand on produit mieux, en général, on produit moins. Alors, dans les pays où on mange bien, c'est pas grave, et notamment en Europe, on est très sensible au fait que c'est bien de produire mieux. Mais la réalité aussi du 21e siècle, c'est que il faut nourrir 9 à 10 milliards de gens. D'ici 40 à 50 ans, il faut nourrir 1 milliard d'Asiatiques de plus, 800 millions d'Africains de plus, 400 millions de Latino-Américains de plus. Et il faut pas oublier que faut certainement produire mieux, faut produire durable, c'est-à-dire pouvoir reproduire ce qu'on a fait année après année, mais il faut aussi produire beaucoup.
Donc pas d'objection de fond, mais le bio n'est pas à la hauteur du problème, c'est ça que vous nous expliquez?
Alors je pense qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans un seul panier. Évidemment, il faut passer d'une agriculture qui était assez agressive au XXe siècle, dans lequel on faisait surtout confiance à l'artificialisation et la chimie, à une agriculture plus respectueuse des équilibres, dans lequel on fait d'abord confiance à la biologie. Mais on ne peut pas suivre une seule voie, parce que le problème est très compliqué et il faut absolument faire feu de tout bois. Et moi je dis, il faut de l'agriculture biologique, il faut de l'agriculture raisonnée, et il faut des OGM, il faut de tout.
Henri Thépeau?
Oui, je partage en partie ce que vient de nous dire notre économiste, dont j'ai perdu le nom.
Bruno Parmentier.
En partie seulement parce que effectivement je crois qu'aujourd'hui passer d'un jour à l'autre de l'agriculture conventionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui à une agriculture biologique, non, effectivement c'est sans doute pas réalisable. C'est pas réalisable parce que techniquement on n'est pas prêt à le faire, c'est pas non plus réalisable parce que culturellement on n'est pas non plus les agriculteurs ne sont pas non plus comment susceptibles de changer leur mode de comportement, leur mode de pratique pour arriver directement à l'agriculture biologique. Mais bon, ok, allons-y, d'ici 20, 30 ans.
Mais quand il vous dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Quand il nous dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, moi, je n'ai pas vocation à aller défendre autre chose que l'agriculture biologique, mais il est certain que si nous prenons l'agriculture biologique aujourd'hui, si en même temps l'agriculture industrielle continue de polluer les sols, on aura une déperdition, une impossibilité en France, comme partout dans le monde industrialisé, de continuer à produire suffisamment. On aura continué à faire que ce soit des OGM ou de l'agriculture chimique aujourd'hui sur les sols occidentaux, ça mène. Il n'y a aucune pérennisation possible de ces systèmes.
Bruno Parmentier, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, vous laissiez tout de même entendre que le bio, c'était très bien, ça pouvait marcher pour les pays riches, pour les pays occidentaux, pour faire simple, et pas tellement pour les pays en développement, pour les pays du Sud.
Alors, bon, s'il y a plus de Chinois qui mangent, c'est quand même un grand succès, et plus d'Indiens qui mangent, c'est quand même beaucoup grâce à la Révolution verte, qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui a été aussi quand même assez utile, même si elle artificialisait les choses. Alors, elle arrive un peu au bout de ce qu'elle peut donner, et c'est vrai qu'on a eu un 20e siècle qui était produire avec plus de terre, plus d'eau, plus de chimie, plus d'énergie, et notre grand défi du 21e siècle, c'est produire plus et mieux avec moins. Parce qu'on va avoir moins de terre, on va avoir moins d'eau, on doit absolument utiliser moins de chimie, et l'énergie sera à un tel prix qu'on pourra beaucoup moins l'utiliser dans l'agriculture. Donc c'est vrai qu'il faut reprendre les choses, et en particulier observer qu'il y a deux grandes écoles de pensée qui sont l'agronomie, on pourrait dire, très intrusive, et l'écologie qui ne se sont pas parlé pendant ce siècle. D'un côté, il y avait les champs, et puis qui étaient transformés en usines, on pourrait dire, et puis de l'autre côté, les gens qui observaient les équilibres de la nature, et que maintenant, il faut absolument que ces deux cultures s'interpénètrent, et qu'on redécouvre, on pourrait dire, l'agroécologie, c'est-à-dire une manière de produire plus respectueuse des équilibres, mais, ceci dit, s'interdire totalement du jour au lendemain les anciens outils, ça me paraît très dangereux. Il faudra aussi accélérer la nature, il ne faut pas seulement la respecter, il faut trouver un juste équilibre entre les deux, et on fait le pari, que c'est possible de pousser les deux voies en même temps.
Henri Thébault, qu'est-ce que vous répondez, alors c'est bien que répondre à un prix Nobel c'est pas toujours facile, mais à Norman Borlaug, qui est un phytogénéticien prix Nobel 2002, qui dit on va quand même pas nourrir 6 milliards d'êtres humains avec des engrais biologiques. Si on essaie de le faire, on va abattre la moitié des forêts et beaucoup des terres ne seront productives que sur une courte période.
Non,
autrement dit, est-ce que c'est bien raisonnable de passer au bio, quoi? C'est ça qu'il nous dit.
Je ne sais pas sur quoi il était prix Nobel, mais en tout cas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse de la situation.
Parce que le corollaire du bio, c'est quand même qu'il va falloir produire du fumier, donc du fumier naturellement, de façon à pouvoir faire des engrais biologiques. C'est ça l'idée, hein?
L'intérêt en fait de l'agronomie en bio, c'est qu'on utilise ce qu'il est possible d'utiliser sur lequel on exploite. C'est là l'intérêt de l'agriculture biologique, c'est qu'elle est indépendante en termes d'intrants, contrairement à l'agriculture conventionnelle industrielle qui elle a besoin de beaucoup de phyto et de beaucoup de d'engrais chimiques. Donc là, justement, dans les pays où il est difficile de faire valoir les modes de culture conventionnels, il est difficile d'acheter, pour un paysan, d'acheter tous ces intrants-là. Au contraire, l'agriculture biologique peut apporter des solutions efficaces en termes d'agronomie, parce que, justement, c'est simplement un recyclage, une façon beaucoup plus autonome d'organiser l'exploitation qui fait que on pourra installer, faire vivre des paysans sur leur territoire.
Ce qui, Ce qui limite aussi, Bruno Parmentier d'ailleurs, la dépendance des paysans envers les grands groupes. Je pense en particulier à Monsanto, c'est un peu l'exemple qu'on a coutume de prendre, c'est un peu une image d'Épinal, mais par rapport aux grands groupes spécialisés dans l'agronomie, les grands groupes qui défendent les OGM. Est-ce que c'est pas important ça pour les paysans du Sud de pouvoir être totalement indépendants?
Alors, c'est... qui est totalement indépendant, hein. Ils sont très dépendants des usuriers, ils sont très dépendants du commerçant local, etc. Alors, évidemment qu'il faut essayer d'être le plus indépendant possible. Mais n'oublions pas que la première chose, c'est que les agriculteurs mangent, mais la deuxième, c'est que les agriculteurs produisent beaucoup plus que ce que leur famille mange pour pouvoir nourrir aussi les gens des villes. Plus de la moitié de la population va vivre en ville. Il faut absolument... que les agriculteurs qui ont faim actuellement puissent manger. Mais il faut absolument que globalement, les agriculteurs du monde nourrissent l'ensemble de la planète. Et donc, il faut produire beaucoup, et pas seulement bien et mieux. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas compter probablement uniquement sur les engrais organiques, on va dire, pour nourrir les plantes. Il faut certainement déjà... mieux comprendre les équilibres, que les plantes s'entraident entre elles, etc. Mais l'idée de dire, par exemple, en termes d'engrais, on ne produit aucun engrais artificiel, n'est probablement pas suffisant pour l'ensemble de ce dont on a besoin pour nourrir l'ensemble de l'humanité.
Henri Thépeau, est-ce que l'une des limites aussi de l'agriculture biologique, c'est pas la résistance aux insectes? Parce que justement, les partisans des OGM disent, eh bien nous, nos produits, ils permettent de lutter contre les insectes, contre un certain nombre de maladies, contre les pestes végétales aussi.
Non, là je crois qu'on fait encore fausse route, c'est encore une des croyances de l'agriculture conventionnelle qui pense que il n'y a pas d'autre solution que pour pouvoir produire que de mettre des intrants et des pesticides. Non, c'est tout à fait faux. En France, on n'aurait pas besoin d'OGM si simplement on respectait des règles agronomiques de base qui sont les rotations de culture. Ça, c'est des principes élémentaires en termes d'agriculture biologique qui sont même pas respectés en agriculture conventionnelle. Du coup, on a un parasitisme qui se développe de façon extraordinaire et qui impose nécessairement une réaction chimique ou bien une solution OGM derrière. En revenant à des pratiques qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus agronomiques et beaucoup plus empruntées de bon sens, on arriverait à ne pas avoir besoin de ces techniques-là. C'est des agriculteurs bio aujourd'hui prouvent tous les jours qu'on arrive à des résultats intéressants avec des rendements satisfaisants sans avoir recours à ces pratiques-là de produits chimiques ou d'OGM.
Donc pas de problème au niveau des rendements, Bruno Parmentier?
Si, problème au niveau des rendements. Et bon, on parle par exemple des OGM d'aujourd'hui. Les OGM d'aujourd'hui servent à rien. Donc évidemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais si on prend les choses d'ici 20 à 30 ans, j'espère bien qu'il y aura des OGM qu'on découvrira qui serviront. J'espère qu'il y aura des OGM qui permettront de faire pousser des plantes avec beaucoup moins d'eau. J'espère qu'il y aura des OGM qui permettront de faire pousser des plantes dans des terres salées. J'espère qu'il y aura des OGM qui permettront de produire plus de protéines ou bien de produire de l'énergie. Et donc, faire une seule voie, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, n'oublions pas que la quantité reste quelque chose d'énorme, mais ce qui vient de se passer dans le monde depuis quelques mois est quand même très important. Nous sommes aujourd'hui en situation de pénurie de céréales sur la planète. Avant, c'était les pénuries pour les pauvres, maintenant c'est les pénuries tout court. Il n'y a plus assez de céréales et les cours des céréales ont repris en 3 mois 25 ans de baisse consécutive. Donc on est devant un vrai problème de quantité.
On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup messieurs. Bruno Parmentier, économiste, directeur général de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Merci à Henri Thépeau, président de la Fédération nationale de l'agriculture bio.